le Gigi, le journal de Jet, info locale et militante, une fois par mois. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier Gigi, piloté par Alice et Victoria. Au menu, trois rubriques. La première dédiée à l'économie sociale et solidaire, aux actions militantes et aux mobilisations syndicales, ce sont les engagés de l'Ouest, avec un focus ce mois-ci, le méthaniseur XXL à Corcouet-sur-Logne. À suivre 8 minutes plus tard, la deuxième rubrique, les tactiques de l'Ouest, ville, métropole, département, région, on fait le point sur quelques mesures politiques emblématiques avec un focus sur l'aéroport Nantes-Atlantique. Et dans 20 minutes, notre troisième et dernière rubrique, quartier populaire à la une, où il sera question notamment de l'accès aux soins en quartier prioritaire. Nous finirons avec la langue qui pique, un regard, 2 minutes pour réagir sur l'une des actus du Gigi. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec les engagés de l'Ouest.
La grosse actualité militante du mois d'octobre, c'est la lutte contre l'A69, ce projet d'autoroute qui relierait Castres et Toulouse et qui engloutirait au passage 300 hectares de terres agricoles pour 10 minutes de gain par rapport à la nationale déjà existante. Les 21 et 22 octobre, la mobilisation Ramdam sur le Macadam a ramené un peu moins de 10 000 personnes.
Oh, c'est vraiment stylé! Mais Alice, quel lien a cette mobilisation avec Nantes?
Eh ben, à Nantes, une centaine de personnes étaient présentes à la réunion d'information du groupe local des soulèvements de la terre le 12 octobre. Dès le lendemain, des affiches de la mobilisation fleurissaient dans toute la ville. Des covoiturages ont été organisés depuis Nantes et tout l'Ouest pour rejoindre le Sud. Résultat, les Nantaises et Nantais étaient présents en nombre pour protester contre ce projet d'autoroute qualifié de dévastateur et écocide par 1500 scientifiques. Malgré cette mobilisation et le rejet de la population locale, le chantier continue pour le moment. Affaire à suivre, donc. Autre actu des engagés de l'Ouest, ça concerne les Restos du Cœur.
Du 6 au 8 octobre a eu lieu la collecte départementale des Restos du Cœur, animée par 3000 bénévoles dans plus de 150 supermarchés de Loire-Atlantique. L'année dernière, c'est 160 tonnes de marchandises qui avaient été récupérées. Cette année, c'est beaucoup moins, à cause de l'inflation. Cette inflation s'est aussi fait ressentir à un autre niveau, plus 30% de bénéficiaires en un an dans le département. Hausse à laquelle les bénévoles des différents centres ne s'attendaient pas. Aussi, l'association a annoncé devoir refuser du monde à partir de novembre et diminuer les quantités distribuées. Rappelons tout de même qu'en France, les Restos du Cœur représentent 35% de l'aide alimentaire.
Côté aide alimentaire toujours, Linky propose désormais une nouvelle distribution pour les étudiants tous les mardis soirs à partir de 18h30 au Solilab. Vous le savez probablement déjà, le Solilab, c'est le tiers-lieu totem de l'économie sociale et solidaire sur l'île de Nantes. Il a d'ailleurs inauguré son tout premier café-restaurant végétarien en octobre, ouvert du petit-déj à l'apéro du lundi au samedi. Tout autre sujet maintenant, parlons d'eau.
Eh oui, c'est de l'eau de la Loire dont je vais vous parler, celle qu'on boit. Samedi 14 octobre a eu lieu la mobilisation contre un site de fabrication d'engrais azotés, situé à Montoire-de-Bretagne, à côté de Saint-Nazaire. L'usine chimique de la multinationale norvégienne Yara rejette de l'azote et du phosphore directement dans l'estuaire de la Loire, impactant ainsi l'écosystème et la qualité de l'eau potable. Bien sûr, depuis 20 ans, citoyens, élus et collectifs se mobilisent et appellent à un sursaut de l'État. Pour le moment, Yara préfère payer les 500 000 euros d'amende que faire des travaux pour répondre aux normes environnementales. Samedi, les 400 militants et militantes présents appelaient même à la suspension administrative du site. Cette mobilisation remet ainsi la question de l'eau au centre des débats publics locaux.
Le 5 novembre, l'usine Yara a annoncé sa fermeture et avec elle le licenciement de 139 personnes. L'actu est encore très chaude et on vous en parlera plus en détail dans le prochain Gigi.
Et pour finir en paillettes, avant notre focus, une actu qui concerne le vignoble.
Fin septembre a eu lieu la toute première marche des fiertés à Clisson dans le vignoble nantais. Autrement dit, dans un territoire rural où l'isolement et les discriminations contre les LGBTQIA+, peuvent être particulièrement marquées. Cette marche des paillettes était portée par la nouvelle asso « Qui nous aime nous suive ». Pour info, cette asso cherche d'ailleurs un local pour pouvoir accueillir des personnes en difficulté et créer des moments de partage. Maintenant, un sujet beaucoup moins glamour. Parlons de caca.
Prout. papier toilette Lotus. Doux, très doux. Résistant, très résistant.
Et oui, parce que le caca est utilisé pour fabriquer de l'énergie, c'est la méthanisation. La méthanisation est un processus biologique de dégradation des matières organiques. En gros, on a du caca fermenté qui produit du méthane, le gaz qui fait des trous dans la couche d'ozone.
La méthanisation, elle peut être naturelle ou mise en œuvre dans des méthaniseurs, où l'on brûle ce caca pour produire un gaz combustible, le fameux biogaz.
Son utilisation, à une certaine échelle, permet que le méthane ne soit pas libéré dans l'atmosphère, et donc contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les déchets servent de fertilisants organiques, substituts des engrais chimiques habituels. La qualité des sols et celle des nappes phréatiques serait ainsi mieux préservée qu'avec des pesticides tout pourris.
Mais alors Victo, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ?
Parce que le 13 et 14 octobre, le collectif Vigilance Méthanisation a organisé deux journées de mobilisation contre le projet du méthaniseur XXL à Corcouët-sur-Logne.
Et d'ailleurs, on a pu interviewer Jacqueline, membre du collectif. Voici un extrait de notre discussion.
Pourquoi vous êtes engagée contre ce projet de méthaniseur XXL à Corcouët et pourquoi, enfin, quel est l'enjeu de cette lutte, si vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail
Oui, très, très simplement. Donc, vous prenez la société Shell, c'est une société une des plus pollueuses du monde, qui va construire une usine en pleine campagne qui sera grande comme la cité radieuse. Il va récupérer les bouses dans un rayon de 50 km à la ronde pour faire brûler les bouses. Sauf que la bouse brûle mal. Donc à la bouse, on doit rajouter des plantes. Donc les agriculteurs vont être rapidement confrontés au problème suivant. Dois-je vendre ma production pour nourrir les hommes ou pour le méthaniseur ?
Et pourquoi on parle du coup de méthaniseur XXL ? Parce que votre lutte, c'est vraiment le slogan, c'était je crois contre le méthaniseur XXL.
Mais... Bah oui, parce que c'est le plus grand de France, voire même le plus grand d'Europe. C'est gigantesque, il y aura à peu près 200 camions qui tourneront et puis qui iront chercher donc la bouse à plus de 50 km. Donc ça, c'est très, très écologique. Et puis avec des cheminées qui cracheront un peu la fumée dans la campagne. Et quand il y a une pub sur la méthanisation, on présente toujours de jolies vaches dans la prairie. Si on ramasse la bouse, il est bien évident que la vache n'est pas dans la prairie. La vache est enfermée. Donc il y a de nombreux agriculteurs qui sont contre ce projet parce qu'ils font de l'élevage raisonné avec des vaches qui combattent dans la prairie. Là, elles seront enfermées.
Ok, et pour justement dénoncer ce projet, vous avez organisé, je crois, le 13 et 14 octobre, un week-end de mobilisation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end ?
Voilà, il y avait des conférences, des débats, une déambulation, des discours avec pas mal d'hommes politiques, avec quand même un sénateur, des élus du conseil régional. Et puis, il y avait une tombola, il y avait un bar, c'était très festif. C'était festif et toujours très, très pacifique.
Ok, et c'est quoi la suite là ?
Alors là, on attend la réponse du préfet.
Il y a eu des recours administratifs qui ont été faits contre ce projet ?
Alors là, jusqu'à présent, non. Il y a eu une enquête publique et après, c'est dans les mains de la préfecture. Et le préfet donne son avis fin novembre.
Ok, d'accord. Donc vous organiserez une grande fête le fin novembre la réponse
et est... Si il dit oui, on fait une grande manif.
Place maintenant aux tactiques de l'Ouest pour partager et décrypter des politiques locales.
C'est tenu à Nantes du 3 au 5 octobre le 83e congrès HLM. Petit rappel, ce congrès réunit les responsables de 566 organismes du logement social qui gèrent un parc d'environ 5 millions de logements dans l'Hexagone.
Mais Vic, pourquoi cette année, ce congrès était-il aussi attendu ?
Cette année, il s'inscrit dans un contexte toujours plus aigu de crise de logement, avec 4 millions de personnes mal logées, 330 000 sans domicile. Les bailleurs sociaux ont d'ailleurs profité de ce congrès pour alerter sur cette situation qui empire avec l'inflation et les nouvelles réglementations environnementales. La demande explose, mais ils n'ont pas les moyens de construire ni de faire face aux travaux de rénovation énergétique. À l'issue du congrès, le gouvernement a finalement annoncé des aides à la transition écologique, jugées relativement encourageantes par l'Union sociale de l'habitat. L'USH, qui continue en parallèle, a réclamé plus de moyens sur les volets de la construction.
Ok, merci Vic pour ces infos. Par contre, là, c'est le Gigi, le journal de Jet, c'est de l'info locale, donc qu'est-ce qui se passe ici concrètement ?
Eh bien, le jour J, lors de ce 83e congrès HLM, l'association Droit au Logement 44 était mobilisée pour réclamer des mesures locales, comme l'encadrement des loyers à Nantes et la mise à disposition des logements vacants. Bon, en tout cas, si ce sujet il vous intéresse vraiment, notamment pour mieux comprendre ce qui se passe en Loire-Atlantique, vous pouvez réécouter l'émission super géniale du Mégaphone du 12 octobre sur le site de jetfm.fr.
Et maintenant, parlons d'énergie. Le 10 octobre dernier, Luc Raymond, PDG d'EDF, est venu parler de l'avenir de l'ancienne centrale à charbon de Cordemais. Il a apporté son soutien à l'implantation d'une usine de granulés biomasse et confirme la possibilité d'implantation d'un SMR, une mini-centrale nucléaire, sur le site, comme le souhaite Christelle Morancet, la présidente des Pays de la Loire. Christelle, toujours aussi nucléaire-friendly, affirme avoir une préférence sur l'hypothèse du nucléaire dans le cadre d'un mix énergétique. Elle promet que « nous mettrons à l'étude tous les scénarios pour faire de ce site industriel unique un lieu de référence de l'énergie décarbonée en France ». Mais Vic, ça serait quoi ce fameux scénario ?
Eh bien, ce SMR ne viendrait à Cordemais qu'après une phase de transition entre le charbon et le nucléaire. On ne sait pas encore combien de temps ça prendrait, mais environ 7 ans. Le débat autour du nucléaire est toujours aussi tendu. D'ailleurs, la députée NUPES Julie Lernous n'y croit pas un instant. « Il n'y aura jamais de centrale nucléaire à Cordemais », déclare-t-elle. Les syndicats ont aussi leur vision sur ce projet. La CGT Cordemais semble donner la priorité à l'emploi et voit le retour de l'activité de la centrale comme une victoire permettant le maintien des salariés.
On va avoir une actu un peu plus cool maintenant ?
Eh ben, désolé, mais pas vraiment. On va parler de blues et celui des maires ruraux. Début octobre, les maires ruraux de Loire-Atlantique se sont réunis pour une réunion de crise de mi-mandat sur le thème « démission ou rebond ». Ils alertent sur 3 points. Un grand manque de formation, des indemnités insuffisantes et une carence de personnel. Ils dénoncent aussi les menaces subies au quotidien, entraînant parfois des drames.
En effet, le bilan dressé est inquiétant. Samedi 14 octobre, l'association des maires ruraux déclarait « Il ne faudra pas venir pleurer en 2026, car cette rareté des vocations pourrait bien faire le jeu des extrêmes. » Ils appellent ainsi à une réaction urgente de la part du gouvernement, craignant une crise de la démocratie locale. Et maintenant, le point étape sécurité de Johanna Roland. La maire de Nantes affirmait début octobre dans son bilan de mi-mandat sur la sécurité que cette question est devenue sa priorité de mandat. Elle a dévoilé des chiffres qui montrent une délinquance en baisse de 11% sur les 8 premiers mois de l'année. Chiffre délivré à titre exceptionnel par la préfecture, dans le but selon elle d'apporter une réponse aux critiques sur la ville de Nantes en matière d'insécurité.
En parlant de chiffres, la préfecture en dévoile d'autres. Les atteintes aux biens baissent de 15,5%, avec notamment une chute spectaculaire de moins 18% pour les cambriolages. Les atteintes aux personnes diminuent de 5,5%. Dans cette catégorie, les vols avec violence diminuent de 14%. Et les violences dans les transports chutent bien de 24%.
Merci Vic, mais là j'en veux encore. Des chiffres sécurité, des chiffres sécurité, vas-y Vic.
Ok, bon, si c'est pour toi, je peux t'en donner plus. Alors, on a 250, c'est le nombre de caméras de surveillance déployées sous les mandats de Johanna Roland. 70, c'est le nombre de nouveaux postes de policiers municipaux. 235, c'est le total de ces policiers municipaux. Et pour finir, la création de la Brigade Canine pour 2024.
Ouais, cette fois c'est bon, hein, j'ai ma dose. Autre actu, Victo ?
Et oui, l'annonce par notre cher ministre de l'Intérieur, ce mardi 10 octobre, de la mise en place d'un nouveau centre de rétention administrative à Carquefou. Mais alors qu'est-ce que c'est un centre de rétention administrative, Alice ?
Un centre de rétention administrative, un CRA, c'est ce qui permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé.
Bon, en réalité, cette info, elle nous vient de l'élu Luc Gémard, le député de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. C'est pas encore super officiel, hein, mais il serait sans doute placé à côté de la maison d'arrêt. Cette info a été révélée à la suite d'un tweet de Darmanin qui se réjouissait d'un quasi-doublement de nombre de places dans les CRA dans le pays.
On me dit dans l'oreillette que des prochaines mobilisations contre ce projet vont arriver.
Et c'est le moment, focus aéroport.
5 ans après l'abandon du projet de NDDL, la vision décroissante des zadistes s'impose et l'aéroport actuel va fermer et se transformer en tiers-lieu agricole. C'est ça, Vic ?
Eh bien non, pas vraiment. Pour le moment, les projections officielles tablent toujours sur une explosion du trafic aérien à l'horizon de 2040. On passerait donc de 6 à 10 millions de passagers annuels, soit un vol tous les 2 à 3 minutes. Avec quand même des dommages collatéraux, notamment près de 100 000 personnes potentiellement affectées par le bruit et les particules fines.
Ouais, donc en gros, jusque-là, rien de nouveau, quoi.
Oui, sauf que le 29 septembre, le gouvernement a annulé l'appel d'offres pour le renouvellement d'un contrat de concession et la modernisation de l'aéroport. Un contrat qui était évalué à près de 500 millions d'euros.
Ah, trop cool, ça veut dire qu'ils ont enfin lu le dernier rapport du GIEC.
Ce serait bien trop beau. C'est pour insuffisance de concurrence et risque juridique. Vinci Aéroport était le seul concurrent en lice et l'appel d'offres était mal ficelé, avec une extension de piste d'atterrissage au bénéfice très incertain. C'est donc un report temporaire et l'État promet un nouvel appel d'offres pour l'aéroport d'ici la fin de l'année. Ce qui n'a pas empêché de très vives réactions locales. D'ailleurs, le président du MEDEF Pays de la Loire, Samuel Tual, affirmait ainsi que sans ces investissements, on injure le futur et on prend le risque d'un déclassement de l'ensemble de notre territoire.
Et du côté de Nantes Métropole, ça dit quoi ?
Eh bien, fin octobre, une réunion d'urgence des 24 maires de la métropole a débouché sur un communiqué commun appelant à renforcer l'insonorisation des habitations et à faire respecter l'actuel couvre-feu entre minuit et 6h du matin. En effet, il faut dire que sur ce champ, plus de 500 infractions ont été constatées depuis avril 2022.
Et du coup, les riverains de l'aéroport, ils en disent quoi de cette histoire ?
Eh bien, c'est une très bonne question, Alice. Justement, pour y répondre, je vous propose d'écouter Paolo Ferreira, le président de l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien.
En fait, ce n'est absolument pas rigoureux et sérieux d'annoncer, de dire on arrête un appel d'offres pour en relancer un autre un mois après. Donc en fait, on a juste relancé le même projet, sauf qu'on va s'arranger pour qu'on fasse semblant d'écouter les élus locaux. Et tout ça en annonçant, et ça je vous le parie, en annonçant qu'on va abandonner en fait l'allongement de la piste de 400 mètres, ce qui permettra pour le coup de remettre l'appel d'offres en fait en cours et de pouvoir renégocier des choses. Mais on va garder l'essence même du projet qui est de maintenir l'aéroport là où il est et avoir un objectif de croissance complètement fou. On n'est pas rassuré parce qu'on met en avant effectivement la santé publique, mais il n'y a aucune réelle mesure là-dessus. Si on voulait vraiment protéger les gens, il faudrait soit cantonner le trafic prévu à quelque chose de raisonnable, un million de passagers par an.
Le plafonnement, pour l'instant, je vous cite une réaction de Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire. Réduire le trafic, c'est tuer l'aéroport.
Évidemment, je la suis. On ne peut pas à la fois investir lourdement sur un aéroport et en même temps brider le trafic. Ça n'a aucun sens. Ça, je la rejoins, mais ce qu'elle oublie juste, c'est qu'elle sait sciemment qu'en développant en fait le trafic, du coup, il y a plus de 100 000 personnes qui seront concernées par les nuisances aériennes. Et quand je pense, quand je parle de concernées, encore une fois, c'est l'impact sur la santé. Donc du coup, il faut être un petit peu cohérent. Soit on constate que cet aéroport, il ne faut pas investir dessus, mais il faut le faire ailleurs pour l'ambition qu'on a. Soit on revoit complètement l'ambition. C'est une question de stratégie de territoire. Mais du coup, il faut aussi réfléchir à rationaliser aussi les autres aéroports. Il y a 11 aéroports dans le Grand Ouest, c'est peut-être la région, les territoires où il y a le plus d'aéroports, en fait. Donc c'est une aberration, certains aéroports tournent complètement à vide. Il faut peut-être réfléchir là-dessus. Et en même temps, réfléchir à ce qu'on pourrait faire, finalement, du site actuel de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Là, on a un aéroport qui, d'une part, est situé sur une zone hyper urbanisée et qui va toucher plus de 100 000 personnes, donc on dit de la santé publique. Et d'un autre côté, il est situé sur une zone Natura 2000, donc qui est le lac de Grandlieu, qui est quand même la première réserve ornithologique de France en nombre d'espèces. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Pourquoi ce qui était valable à Notre-Dame-des-Landes n'est pas applicable du point de vue écologique à cet aéroport de Nantes-Atlantique ? Mais pour ça, il faut avoir une vision, une coopération, une vision la plus large possible. Pour l'instant, on ne l'a pas. C'est pour ça que je suis pas du tout satisfait du positionnement en fait national et encore moins du positionnement local.
Comment est-ce que vous expliquez que Johanna Roland ne s'engage pas en faveur d'une restriction du trafic aérien
et... Tout simplement parce qu'elle ne veut pas s'exposer sur ce sujet. Dans l'esprit de ces politiques-là, Notre-Dame-des-Landes est un véritable trauma. Ils savent très bien que c'est un suicide politique de réouvrir le dossier. On est plutôt sur des engagements ou plutôt sur des calculs qui sont très individuels, tout ça donc contre l'intérêt général. C'est ça la véritable histoire, c'est ça le scandale de cet aéroport.
Qu'est-ce qui reste de votre côté comme espoir, mobilisation là, à court et moyen terme ?
En fait, il n'y a pas d'espoir, il faut agir. Alors nous, pour le coup, ce qu'on fait effectivement, c'est des mobilisations, des manifestations, mais pas des manifestations qui visent à détruire, mais des manifestations constructives. Deuxièmement aussi, je sais très bien que donc on assiste à énormément d'instances, et le point le plus important et qu'on est en train d'engager, bien entendu, ce sont les recours juridiques, parce que pour le coup, il y a matière à faire.
Des recours qui précisément portent sur quel point ?
La santé publique, on va attaquer sur ce point-là. et on ne restera pas au niveau français, on restera au niveau européen.
Merci Paolo Ferreira. Je rappelle que vous êtes président de l'association COSETA, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien. Et puis vous avez un site internet très documenté où on peut retrouver toutes les informations sur votre mobilisation.
Place à présent à la parole des habitants et des acteurs des quartiers populaires. C'est la rubrique Quartier Pop à la Une.
Oh là là, on n'arrête pas d'entendre des engins de chantier depuis les studios de Jet, mais qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on est à Bellevue, dans un quartier populaire à la croisée de Nantes et Saint-Herblain, qui est touché par une opération colossale de renouvellement urbain. Comme d'autres dans la métropole, on peut d'ailleurs citer les Dervalières, Malakoff ou encore Le Breil.
Eh oui, 310 millions d'euros, c'est le budget alloué par les acteurs publics pour détruire, rénover et reconstruire les immeubles du quartier entre 2022 et 2026. Et là, c'est la place Mendès France, le cœur du quartier, qui est en train d'être métamorphosée. Mais alors pourquoi ?
Eh bien, pour Nantes Métropole, les objectifs sont d'ouvrir la place et d'offrir des logements beaucoup plus qualitatifs.
Et du coup, on en est où aujourd'hui ?
Ayant passé la première étape de désamiantage des deux immeubles centraux, ils sont maintenant en pleine déconstruction. Les rénovations des immeubles Rossignol et Rochelet se poursuivent, boulevard Churchill. Les habitants et habitantes ont encore accès à la supérette, l'opticien, la pharmacie, l'épicerie ainsi que le grand marché de Bellevue.
Reste à savoir comment les habitants sont accompagnés en termes de nuisances sonores générées par ces grands travaux. C'est un chantier qu'on suivra de près. On en parlera plus dans un prochain Gigi.
Parlons maintenant de la maison de quartier des Haubans à Malakoff, que les habitants attendaient avec impatience.
Eh oui, en septembre dernier, 5 ans après avoir été incendié lors des émeutes en réaction à la mort du jeune Aboubakar Fofana, tué par un CRS au Breil, la maison de quartier des Haubans à Malakoff rouvre ses portes. Et il y a du nouveau. En plus de la ludothèque, des espaces jeunes, de la bibliothèque et d'une salle avec cuisine, il y a désormais un espace de solidarité, une permanence sociale et associative, ou encore une salle de danse.
D'ailleurs, le 17 septembre dernier a eu lieu la journée d'inauguration. C'était la fête dans les rues de Malakoff, des tissus colorés bordaient les rues, des nombreuses animations étaient organisées. Les habitants attendaient avec impatience cette réouverture du cœur associatif de Malakoff. Maintenant, nous allons évoquer une actu, celle de la fermeture du collège Rosa Parks situé au Breil.
En septembre, c'était la toute dernière rentrée des 340 élèves du collège Rosa Parks, situé entre les quartiers des Dervalières et du Breil à Nantes. À la rentrée scolaire 2024, les élèves de ce collège classé Réseau d'éducation prioritaire plus seront réaffectés dans des établissements du centre-ville au nom de la mixité sociale. C'est donc la fermeture de Rosa Parks qui a été choisie au détriment d'un autre projet, celui d'une mutualisation avec Gaston Serpette, un collège voisin qui accueille des publics moins défavorisés.
Pour le moment, la fermeture du collège suscite de l'incompréhension, comme l'affirme David Lotelier, représentant des parents d'élèves à l'initiative d'une pétition. Ses parents craignent une rupture du suivi des élèves en difficulté et des discriminations entre les jeunes. Il s'interroge d'ailleurs pourquoi dans ce cas, ici la mixité sociale, elle signifie déplacer des jeunes des quartiers prioritaires vers le centre-ville et non l'inverse.
D'autres professeurs, eux, se disent rassurés par la rupture d'un entre-soi. Des réactions donc contrastées et des questions qui restent en suspens. À ce jour, le département n'a pas encore présenté clairement le projet aux parents d'élèves.
Enfin, la crique, c'est quoi l'égalité ?
L'égalité ? C'est quand tout le monde a pareil.
Oh, tu vois ?
Alors nous, c'est pas l'égalité ?
Bah, puisqu'il y en a comprendront.
Bon, on va voir ça. Ceux qui peuvent payer autour de moi, ceux qui peuvent pas autour de Tigibus.
Allez,
et puis d'abord, sortez de là-dedans. Je veux pas que les pauvres s'entassent dans les chiottes puisqu'il n'y a pas de honte. Les pauvres, par là, et les riches, par là. Bon, là, ce que je propose, puisque c'est comme ça. Les sous, ceux qu'on planquera dans notre cabane, notre trésor, faudra que ce soit à tout le monde et qu'on les gagne nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il égalité, la crique ?
Oui, comme ça, ce sera l'égalité.
Eh ben, je le savais bien, les gars, qu'on y arriverait.
Oui, mais comment qu'on fera pour gagner des sous nous-mêmes ?
Il y a qu'à cueillir des champignons !
Eh ben voilà, il y a qu'à cueillir des champignons !
Puis des croissants !
Puis des grenouilles !
Puis des vipères !
Il est pour moi 10 balles pièces à la mairie !
Et épidermaire, mais ça, ce sera un coup de peau.
Comment ils s'appellent, Ernard?
Oh, la trique, tu t'en cru pas de tout savoir le prix des champignons, des renards, des doigts, enfin de tout, quoi.
Et voilà!
Et il y en aura pour tout le monde, chacun son boulot. C'est ça, l'égalité.
Et maintenant, parlons de l'association NABI, Nantais Ambassadeurs de Belles Initiatives.
Mais qui sont-ils?
Eh bien, c'est une jeune association implantée à Malakoff depuis 2019, qui porte des initiatives habitantes dans les quartiers.
Ok, et concrètement, ils font quoi?
Eh ben, concrètement, ils organisent des distributions alimentaires une fois par an dans les quartiers Malakoff, Breil-Malville et Clotoro. Ils sont aussi actifs sur les réseaux sociaux, où ils réalisent des interviews d'habitants et habitantes des quartiers, justement, porteurs d'initiatives.
Et en ce moment, quelle est la nouvelle initiative que porte cet asso?
En octobre dernier, les bénévoles de NABI ont organisé une récolte de vêtements, ainsi qu'une distribution vestimentaire gratuite le 5 novembre. Vous pouvez retrouver toutes leurs actus sur leur réseau.
Parlons maintenant d'une toute autre initiative, celle de mettre en place des projets de santé dans les quartiers prioritaires avec l'ouverture d'un centre de santé au Breil. Et je vous en dis plus dans ce petit focus. Qu'en est-il de l'accès aux soins dans les quartiers prioritaires de la ville? Les quartiers prioritaires, au même titre que les territoires ruraux, sont affectés par les déserts médicaux. Dans l'agglomération nantaise, ce sont 49 médecins pour 100 000 habitants qui exercent dans les quartiers prioritaires contre 93 en moyenne dans l'agglomération, selon l'Observatoire régional de la santé, en 2021. Afin de désenclaver cet accès aux soins, la ville de Nantes met en place plusieurs projets de santé. La maison de santé de Bellevue qui a ouvert ses portes en 2022, une autre sera inaugurée à Nantes-Nord en 2024. Et en octobre dernier, c'est le centre de santé participatif du Breil qui a vu le jour. Un projet particulièrement attendu dans ce quartier, faisant suite aux incendies du cabinet médical en 2018. Bérangère Camin, co-directrice de l'association Accompagnement Soins et Santé, association porteuse de ce projet, nous en dit plus.
C'est un diagnostic territorial en fait qui a été fait avec les acteurs locaux, avec notamment le Conseil citoyen, pour déjà définir les besoins du territoire. Et à partir de là, donc suite à ce diagnostic, on a mis en place une équipe de plusieurs professionnels spécialisés. Donc on a une secrétaire d'accueil. Pour l'instant, on a un médecin généraliste. Donc c'était vraiment ce qui manquait aussi au niveau du territoire. On est actuellement en recrutement pour un deuxième médecin et on aimerait bien un spécialiste en 2024. On a aussi une assistante sociale, une psychologue. On a une médiatrice en santé qui travaille avec les acteurs locaux, notamment l'association de médiation Les Forges, dans un but de lutte contre l'isolement et le renoncement aux soins des personnes les plus fragiles. C'est vraiment ce qui était apparu dans la restitution du diagnostic du quartier. On a aussi un pôle d'éducation thérapeutique et prévention avec trois infirmières qui proposent des actions de prévention et de promotion de la santé à destination des habitants du quartier. Donc encore une fois, c'est une problématique qui était ressortie du diagnostic de territoire. On a également mis en place un centre de soins infirmiers, donc avec des infirmières. Et on a également, mais qui ne font pas partie de l'association, des professionnels libéraux. Il y a trois kinés et deux orthophonistes. Et donc, c'est des professionnels qui ont subi de plein fouet les incendies de 2018 et justement qui ont été relogés par l'agglomération.
L'association Accompagnement Soins et Santé défend des valeurs d'accès aux soins pour tous. Mais concrètement, comment cela se manifeste en centre de santé au Breil?
L'accès aux soins pour tous, ça veut dire pour nous le tiers payant généralisé, ça veut dire que les médecins, les infirmières sont conventionnés avec les mutuelles, la sécurité sociale, dans le but que le patient n'ait rien à débourser, qu'il soit pris en charge à 100% ou non. On propose des consultations d'assistantes sociales gratuites, des consultations de psychologues prises en charge, pareil, par la sécurité sociale, donc avec aucune avance de frais. Donc ça nous permet de reporter les valeurs de notre association directement dans ce centre de santé. On est bien soutenu par l'ARS notamment et la ville de Nantes, justement pour pouvoir proposer ce genre de prestations.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé passe aussi par un volet sensibilisation. le centre de santé du Breil propose des actions de prévention, d'éducation thérapeutique sur des sujets relevés lors du diagnostic, comme la lutte contre les addictions, la santé de la femme, les conduites à risque chez les jeunes ou encore des ateliers nutrition. Bérangère Camin l'évoquait plus tôt, le centre cherche à recruter un autre médecin. Il reste bien des lignes à bouger afin de s'affranchir de l'imaginaire de la non-attractivité d'un quartier prioritaire. C'est presque la fin du Gigi, mais avant de se quitter, c'est la langue qui pique.
Deuxième.
Quatrième.
Troisième.
Deuxième.
Première.
Bien. Voici donc 50, 5, 1, 2, 10, 8. Voilà, je voudrais vous préciser maintenant, donner quelques explications de plus. Ces six chiffres. 899. Je vous précise enfin que vous n'avez le droit d'employer les chiffres qu'une seule fois chacun. Maintenant, je crois que tout est prêt. Et pour une minute, allons-y.
Des chiffres, toujours des chiffres, des classements, des notations. Vous avez entendu les chiffres tout à l'heure. L'insécurité, la baisse, la hausse, les chiffres. La ville de Nantes, son attractivité, des chiffres. Ah, ça donne envie de faire venir des gens, encore plus de gens, plus de chiffres. Ah ben ouais, plus de gens, plus de difficultés. Ah, plus d'insécurité, plus de chiffres. Allez, plus de lois contre l'insécurité. Plus de policiers, plus de chiffres et encore des chiffres. Et puis on n'oubliera pas de télécharger l'application pour proposer des chiffres qui vont permettre de noter des gens pour savoir s'ils peuvent gagner plus de chiffres sur leur compte en banque ou moins. Ou être proprement viré comme des zéros. Bref, des chiffres.
Nous allons commencer avec le 37, ensuite le 9, le 35, le 20, le 2, le 21, et en numéro complémentaire, le numéro 34.
C'est assez fatigant, les chiffres, en fait. Bah, surtout, c'est assez limité. Il y en a 9, puis après, on fait des nombres. Et puis, avec ces nombres, on est quand même assez limité. Peut-être qu'il vaut mieux les 26 lettres de l'alphabet pour essayer de construire une pensée. Bon, d'accord, c'est un raisonnement un peu court. Vous me donnez combien de 1 à 10 ?
On va te donner une très bonne note. 10, voilà, c'est ce que je voulais. 8, tu as très bien fait. Toi, tu donnes 9 parce que tu n'as pas trouvé le 10. Voilà. Et toi, tu as mis un ?
6.
Un 6, bon, très bien. Et toi, tu as mis combien ?
Un 9.
Elle a mis un 9. La partie sera chaude. En attendant que le rideau se lève derrière, vous ne pouvez pas savoir à quoi on joue et ce qui se passe.
La, 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 la.
Vous venez d'entendre la langue qui pique, faite ce mois-ci par Henri. Et voilà, le premier Gigi, le journal de Jet, se termine. Vous pouvez le retrouver en podcast sur jetfm.fr. Merci à Alice et Victoria pour la conception et l'animation de ce premier numéro. Elles ont été épaulées par la rédaction de Jet et pour la création musicale par Théo Bonnet. Et merci à vous, auditeurs, d'avoir été avec nous. On se dit au mois prochain. Belle soirée sur JetFM.